Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that's music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what? I like that idea.
Ce podcast est rendu possible par Stellar, un collectif de top CPO qui ont participé au succès de startups comme Zenly, Sunday, Spendesk ou Blablacar. J'ai cofondé ce collectif avec une mission, aider les dirigeants d'entreprises tech à créer les produits qui dominent leurs industries.
Oh, yes, yes.
Retard sur la roadmap, équipe désalignée, produits lents à décoller, ces problèmes, nos CPO les connaissent par cœur. Et ils débarquent à tes côtés pour les résoudre dans des formats rapides, actionnables et clés en main.
Well, that's excellent.
Si tu es dirigeant ou CPO et que tu écoutes ce podcast, c'est qu'on a très certainement des choses à se dire. On se retrouve sur wearestellar.io ou via le lien en description d'épisode.
Oh, yes, yes.
Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Bardot sur Clé de voûte. Rémi fait partie des rares product leaders français que l'on peut qualifier de serial CPO, en plus d'avoir fait du produit dans trois entreprises qui ont connu un rachat. Il fait ses armes dans le produit en 2011 chez Price Minister, racheté par Rakuten, puis rejoint la startup Bizik, rachetée par Tids. Il prend ensuite la direction produit de Plick, puis rejoint Chauffeur Privé, dont il devient le CPO. La startup est rachetée par Daimler et il prend la direction du produit chez Se Loger. Il vient sur Clé de voûte nous partager son expérience dans la première partie du podcast avant de nous détailler comment il fait pour réussir son arrivée en tant que CPO dans une boîte. Pour finir, Rémi partage quelques tips pour mieux s'organiser et exécuter en tant que product manager. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Rémi, comment tu vas ?
Salut, eh ben ça va super, hâte de faire cet exercice.
Bah ouais, je sais bien là que je te vois, je sais que t'as envie d'y aller. Rémi, bah, trop content de t'accueillir. T'es actuellement CPO freelance, mais t'as enchaîné plein d'expériences en tant que CPO et bah, j'ai trop hâte qu'on puisse creuser un peu tout ça parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de gros challenges là à creuser ensemble. Comment t'arrives dans le produit ? Comment tu démarres ?
Moi, je suis arrivé un petit peu par hasard. J'avais fait une école d'ingénieur et j'ai commencé en stage, quatrième année. Où j'avais vu une offre qui devait être à l'époque exactement assistant product owner ou non assistant MOA. À l'époque, ça avait encore ce nom-là.
Le fameux.
Exactement. Et j'ai commencé en MOA et puis après j'ai rebondi. Puis je me suis trouvé assistant PO chez Price Minister, puis seul PO d'une petite boîte. Et après j'ai monté ma boîte dans laquelle j'étais CPO et ensuite j'ai été head of product CPO dans les boîtes suivantes.
Trop bien. Comment tu arrives chez Price Minister ? Donc c'est une boîte qui s'est créée en fin des années 2000, à peu près,
ouais.
Je pense. La boîte était grosse déjà ou...
La boîte était déjà grosse, ouais. Moi, quand je suis arrivé. Il venait d'avoir le rachat, venait de se passer par Rakuten.
Ouais.
Et je suis arrivé en stage de fin d'études chez eux. Super boîte pour apprendre, super tuteur que j'avais eu, super équipe. Et donc, j'étais au cœur de l'équipe de dev avec mon tuteur de stage qui était lui, le PO de cette équipe. Et j'ai appris énormément, j'ai découvert, et en fait j'ai découvert aussi un peu plus le milieu start-up, parce que même s'ils étaient déjà au moins 200 personnes, je pense, quand j'y étais moi, il y avait encore cet état d'esprit start-up vraiment avec les fondateurs qui étaient encore présents. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer là-dedans, et la boîte suivante, on était 15-20 je crois quand j'ai rejoint, donc c'était vraiment beaucoup plus petit.
Les fondateurs qui étaient Pierre Kosciusko-Morizet,
ouais.
Si je ne me gourre pas, c'est ça ?
Ouais, exactement. Ouais. Okay. Ils étaient trois, il y avait Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings, et il me semble qu'il y avait un troisième.
Ok, hyper cool. Tu fais combien de temps chez Price Minister ?
Je fais juste mon stage de fin d'études.
Juste
je fais 6 mois et ouais. J'enchaîne directement. En fait, j'ai ma tutrice de stage de quatrième année qui me rappelle et qui me dit « Ah, bah, moi j'ai rejoint une petite start-up, il y a une place qui se crée, viens voir les fondateurs, t'es jeune, tu sors d'école, mais ça peut peut-être le faire. » Et ça l'a fait, coup de chance, et ça m'a beaucoup aidé.
Cette boîte, c'est quoi ?
Cette boîte, ça s'appelait Bizik. C'était une boîte dans le téléchargement de musique légale. Donc les utilisateurs regardaient une pub et en échange, on leur donnait leur musique. Et donc cette boîte avait cartonné, ils avaient créé un modèle publicitaire sur cette base-là. Et donc ma tutrice de stage partait s'occuper de justement la partie pub. Et tout le site de musique restait, avait besoin d'un produit pour s'en occuper. Et c'est là que je suis arrivé, j'ai fait ça pendant un peu plus de 2 ans.
Trop cool.
Chez eux, jusqu'à ce que la boîte se fasse racheter par une boîte purement dans la pub. Qui est devenu Tids.
Excellent. Donc là, tu arrives en tant que POPM, tu fais quoi comme mission? C'est encore un peu le bazar ou c'est déjà bien cadré?
Non, alors c'était un petit peu le bazar. J'arrive en... je pense que c'était PO, mais c'était peut-être même MOA encore à cette époque-là. Et le seul truc qui n'était pas encore hyper clair, c'est que la distinction avec le marketing n'était pas évidente à cette époque-là. Et donc, il y avait une chef de produit, il y avait nous côté tech avec PO. Et du coup, cette distinction... était pas évidente à mettre en place. Et en fait, si je regarde, c'est vrai qu'elle, dans les plus de 10 années qu'on suivit, il y a toujours eu cette position-là avec le marketing qui a jamais été évidente. Il y a toujours des questions à chaque fois qu'on rentre dans une boîte. Selon l'historique de la boîte, selon la culture de la boîte, le marketing et le produit ont chacun un périmètre qui est plus ou moins délimité, qui est plus ou moins isolé ou plus ou moins... fluide entre les deux.
C'est marrant que tu dis ça parce qu'on est en juillet là quand on enregistre. L'épisode va sortir un peu plus tard.
Ouais.
Et il s'est passé un événement il y a 2 semaines qui est que Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, est dans une conférence Figma et explique qu'en fait il est en train de rebosser un peu leur gars et de faire se rapprocher les fonctions PM du rôle de marketing. Enfin, de marketing en fait, parce que je crois que les PMM purs vont être plus ou moins supprimés. Enfin, je sais plus exactement précisément comment ça s'est passé, mais c'était ça. Et c'est marrant, ça fait 2 épisodes où j'ai des gens qui me parlent du rapprochement entre marketing et product. On dirait que vous êtes inconsciemment influencé par Brian Chesky qui envahit vos cauchemars. C'est...
ouais, alors, et lui, il parle aussi de la partie design qui est hyper intéressante. Et je pense, pour ma part, que ça dépend aussi beaucoup des entreprises, ça dépend beaucoup des boîtes. Si t'as un Zenly, le design a une place gigantesque. C'est une boîte B2B pure où t'as un front minuscule, bah en fait t'es un peu plus, t'en as peut-être un peu moins à ces postes-là. Mais oui, c'est du dotted line pour moi, hein, entre marketing et produit, l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde du marketing qui vient bosser en tant que PM aujourd'hui. Il y a un petit peu qui se fait dans l'autre sens aussi, des gens qui étaient chefs de projet, qui étaient product manager, product owner, qui vont vers des fonctions design ou vers des fonctions marketing.
Ouais, clairement, je pense qu'il n'y a pas de convention là-dessus. Ça dépend vraiment de ta boîte, de type de produit et surtout ce que tu veux insuffler. De la place du fondateur aussi, je pense, tu vois. Parce que quand tu as un fondateur qui est très fort en design, par exemple, forcément, tu vas avoir une fibre assez forte dans la boîte, mais ça peut être aussi compensé par une équipe qui est moins design. Enfin, il y a 15 000 configurations, quoi.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai trouvé un peu dingue l'élan sur Twitter de Brian Chesky, enfin, de suite au poste de Brian Chesky, parce que je pense qu'en fait, tu peux pas prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Il faut pouvoir faire avec ce que tu as et comme tu peux faire dans ta boîte en fonction de ce qu'il y a présentement dans la boîte en termes de talent et de ressources, quoi.
C'est exactement ça, je suis complètement d'accord et je vais plus loin. En fait, il y a eu ça, mais il y a eu pareil, c'est il y a quelques années, mais avec Spotify qui parlait de beaucoup de choses sur son blog qui a apporté énormément aux produits, hein, sur l'organisation produit, sur tout ce qu'on peut faire, les tribes, etc. et tout ce modèle-là, c'est absolument génial. Maintenant, c'est la même chose, il faut pas le prendre et le faire tel quel dans son entreprise, ça ne marchera pas. Spotify est une boîte particulière, mais chacune des boîtes est particulière. Les employés ont leur propre manière de fonctionner, la culture est différente, le produit est différent, les utilisateurs sont différents. Et on ne peut pas juste répliquer tel quel ce qu'on a lu dessus. Il faut dire, bah tiens, ça c'est vrai, ça a l'air pas mal, testons-le et on le fera tel que nous on pense que ça va fonctionner, et puis on va itérer, bah ça on va l'enlever, ça on va le rajouter, ah bah non, peut-être que les guildes chez nous ça marche pas aussi bien, ou peut-être qu'on n'est pas assez pour pouvoir mettre en place des guildes, et on verra dans 1 ou 2 ans et y aller petit à petit.
Entièrement d'accord avec ça. Donc là tu fais 3 ans, tu m'as dit, chez Bizik, 2 ans
un
et
peu
demi.
Moins, ouais, 2 ans,
2 ans et demi, ouais,
ouais, un peu plus de 2 ans.
Donc t'arrives quand t'es, tu disais que c'était peut-être AMOA, PM, c'est plus trop le rôle, peu importe, t'es au produit. Vous êtes combien au produit? C'est ta tutrice,
tout seul. Tout seul. Et en fait, ma tutrice, elle, qui était du coup PO aussi, elle part sur l'autre produit. Donc en fait, on n'était que 2 à gérer le produit, mais elle gérait le produit plus sur la partie pub, et moi j'avais gardé le produit sur la partie musique.
Donc tu te retrouves seul sur un produit, après ta première expérience de stage, c'est quasiment ton rôle de first PM, plus ou moins.
Ouais.
Trop bien.
Ouais.
Tu restes 2 ans et demi, la boîte est rachetée par Tids.
Ouais, Tids, qui s'appelait eBuzzing à l'époque.
Ah oui, eBuzzing, ouais.
Et eBuzzing fusionne avec Tids un peu plus tard.
Ok, hyper clair. Tids, alors, de mémoire, il y a un lien avec Loïc Souberan, qui est le fondateur de Swile.
Tout à fait.
Je sais pas si c'était un late founder ou un des premiers founders, Loïc Souberan.
Loïc, il est arrivé après.
Il est arrivé après.
Nous, on a été rachetés par eBuzzing, où c'était Pierre Chapaz, je crois, déjà à l'époque, qui gérait ça. Ils avaient déjà racheté d'autres boîtes, Overblog, etc.
Ok.
Nous, on avait été rachetés. Ensuite, il y a eu le rachat et le rachat fusion de Tids. Mais là, moi, j'étais déjà plus.
Ok. Donc, toi, tu files après 2 ans et demi de Bizik Vers où, du coup?
Et là, je monte ma boîte. En fait, j'avais fait la petite start-up. Moi, j'étais arrivé, on était une quinzaine, je pars. On était plus de 200. Il y avait eu le rachat déjà par eBuzzing. Et je me dis, bah tiens, j'ai une idée. Et avec un pote, on se lance. On crée des apps. On en fait plusieurs. Il n'y en a aucune qui réussit vraiment. Mais on apprend des milliards de trucs. J'avais déjà appris vraiment des milliards de choses chez Bizik, mais j'ai l'impression d'en apprendre encore plus. Vraiment, quand on dit que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est exactement le cas. On fait plein de choses, on fait des choses assez drôles, on arrive à travailler avec des gens comme Nicki Minaj, Puff Daddy, Karim Benzema, et donc on, bah pareil, on apprend énormément et on fait des erreurs tout au long du parcours, mais on était dans un bon moment sur les apps mobiles où ça commençait quand même à être développé, ça faisait quelques années que l'iPhone était sorti, etc., mais c'était encore au tout début de ce qu'on pouvait... attendre et de là où on en est aujourd'hui sur les apps mobiles. Et donc on a pu apprendre. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait, on était que deux, on a créé plusieurs apps, on a essayé, on avait pris, après on bossait avec un designer, on bossait avec un autre pote, on lance une première app, une deuxième app, ça marche pas, une troisième, on essaye, on n'y arrive pas, et on se dit bon bah on va arrêter. Ça faisait un an et demi qu'on essayait des trucs, mais à chaque fois ça fonctionnait pas vraiment. Ce qu'on lançait, il y avait pas vraiment de traction quand on essayait de le faire tester par des gens. Et on se dit, bon, bah, c'est dommage parce que sur notre CV, ça va faire juste un trou, alors que vraiment, on a appris des tonnes de trucs sur les apps. Et donc, on se dit, bon, bah, on s'enferme pendant une semaine dans une maison. Et notre but, c'est en une semaine de faire une app. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va raconter tout ce qu'on a fait sur Medium, qui à l'époque était le média pour tout raconter. Et donc, on se dit, bon, bah, on fait ça et on raconte jour par jour ce qu'on a fait. Et à la fin de la semaine.
Tu documentes.
Exactement. Et donc, on commence. Et
ligne publique.
Et on s'enferme, la maison, il y a un wifi, mais vraiment, vraiment cata. En fait, c'est hyper bien pour tester. Et on, du coup, on se donne des temps très courts pour certaines choses. Trouver un nom, ok, bon, on a une heure pour trouver le nom. Ok, faire le design, on n'a pas beaucoup de temps. Faire le logo, pareil, en une heure, on doit faire le logo du truc. C'est vraiment pas très beau. Mais à partir de ça, à partir de ce qu'on a raconté, quand on a terminé cette semaine, on l'a soumise sur l'App Store, et là, on a commencé à avoir des demandes. On parlait avec un fonds à l'époque qui nous dit « Ah, mais attendez, c'est super ce truc-là, le concept est cool, on aime bien. » On a des journaux qui nous contactent, on a Le Figaro, Le Parisien, en disant « Ah, c'est cool, deux petits Français qui s'enferment dans une maison à la campagne et qui créent un concurrent de Snapchat. » Alors, on n'avait jamais pour ambition de concurrencer Snapchat, et ça a d'ailleurs pas du tout été le cas. Mais en tout cas, ce storytelling et ce qui s'était passé sans même le vouloir, nous, c'était vraiment juste, on s'enferme, on raconte, et comme ça, ça pourra lister un petit peu tout ce qu'on a appris pendant cette étape. Et c'est ce qu'on avait fait avec mon associé. Et du coup, à partir de ça, en fait, on a pu lever des fonds, créer une équipe. Et donc là, l'aventure a continué pendant plus d'un an, où on a itéré, on a bossé sur des concepts. C'est là où, justement, on a pu travailler avec des gens comme les célébrités ou des marques hyper fortes. Donc ça a été assez génial. Et on est parti un an et demi plus tard. On a, au final, pas trouvé ce product market fit. Et du coup, nous, on est parti. On avait fait rentrer un troisième associé à l'époque qui lui a continué. La boîte et l'aventure a continué. Nous, on a pu sortir à ce moment-là avec Adrien, mon associé.
Trop bien. Donc là, le fait d'avoir documenté cette aventure, c'est ce qui a été un levier pour tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire lever des fonds, te rapprocher de gens qui ont été des ambassadeurs pour la boîte, dont tu parlais des célébrités, être tout simplement présent dans la presse pour qu'on parle de vous. Ça, c'est fou parce que tu sais, cette tendance de building public, je sais pas en quelle année c'était ça d'ailleurs, cette
étape. Ça devait être 2014,
ouais.
2014-2015.
Tu vois, on commence à en reparler beaucoup dans l'écosystème un peu du solopreneuriat, etc., ouais. Du fameux building public, mais c'est de 2021-2022, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est une preuve incroyable. En plus, vous ne deviez pas être beaucoup à le faire, bah, parce que ça peut être un levier super puissant, quoi.
Exactement, parce que je pense qu'on ne l'a même pas très bien fait. Tu vois, quand je vois maintenant ce qui est fait, justement, sur ce building public, les contenus sont absolument incroyables. Ah ouais. Ça fait du contenu vidéo, du contenu audio, du contenu écrit. Il y a des trucs vraiment très forts. Nous, c'était un médium. On a dû écrire 4 articles médium, je pense. On avait même regroupé, mais il n'y avait personne. C'était même pas... Je pense que c'était même 2013. Et donc, en fait, dès que tu faisais un truc comme ça, bah forcément, ça résonnait un petit peu plus. Et ouais, écoute, ça a lancé, mais c'était vraiment, vraiment pas voulu, quoi. On s'était dit, on en fait, Et le but, c'était vraiment pour notre CV. On s'était dit, comme ça, on pourra expliquer quand on aura des RH en face de nous qui nous montreront, mais en fait, depuis un an et demi, vous faites rien. Bah, si, si, on a appris des millions de trucs. On est vraiment, on a plein de connaissances sur les apps mobiles, sur ce genre de choses. Ça nous permettait de faire quelque chose d'un peu plus objectif.
Bon, c'est une super idée, parce qu'en plus, à cette époque, 2013, dans l'entrepreneuriat, il y avait encore cette idée qu'il fallait cacher son idée et pas montrer un peu les coulisses, parce qu'on a peur de se faire copier, on a peur, voilà, d'avoir des gens qui nous piquent nos idées qu'on a galéré à trouver. Bon, là, l'avantage, c'est qu'en une semaine, globalement, t'es pas trop, tu vois, tu te sens pas trop mal si c'est piqué parce qu'il n'y a pas eu trop de travail.
Ouais.
Mais trop intéressant cette façon d'avoir documenté. Enfin, je pense que c'est aujourd'hui encore valable, bien sûr. Il faut mettre plus de moyens. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de newsletters, de podcasts. Bon, typiquement, moi, ce que je fais pour le faire, alors, moi, je parle pas de moi, mais il y a des gens vraiment qui parlent que d'eux et c'est vrai que ça attire vachement, quoi.
Et plus de talent. Je pense aussi, enfin, plus de talent. Nous, c'était pas du tout notre. Enfin, en tout cas, moi, Adrien était sans doute meilleur là-dedans, mais. Maintenant, je pense que pour sortir du lot, il faut aussi avoir un contenu qui soit vraiment. Il y a des gens qui sont faits pour faire le contenu, t'en es la preuve. Le contenu, c'est très dur à faire, c'est pas du tout inné. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai. La chance, c'est que vu qu'il y avait personne, là, en faisant juste un article Medium avec des bullet points, en donnant des liens, en donnant des outils qu'on utilisait, etc., ça suffisait à intéresser des gens. Maintenant, ce contenu-là, il est déjà à plein d'endroits. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose de plus quali.
Peut-être que tu vas t'y remettre à un moment.
Peut-être. Écoute, en plus, j'ai un truc dans la tête qui traîne. J'avais écrit il y a quelques années pas mal de textes sur le produit. J'avais vraiment rédigé beaucoup de choses. J'aimerais bien en faire quelque chose, mais j'ai jamais trouvé le temps. Ce serait mentir de dire ça. J'ai jamais pris le temps pour le faire, mais il est toujours dans un Google Doc. Il n'est pas sur un Notion. Celui-là, il date d'il y a trop longtemps.
On en parle offline.
J'ai l'idée, j'aimerais en faire quelque chose. Je me dis, OK, il faut que je demande à ChatGPT de, tiens, prends, intègre ces 30 pages et fais un truc cool. Et
grave.
On va voir ce qu'on ressort.
Trop bien. Bon, donc du coup, tu montes cette start-up. Alors, c'était quoi l'app, au fait? Tu nous as même pas dit.
Il y en a eu plein.
Mais la dernière, faite sur
Click,
une semaine.
Celle sur une semaine, elle s'appelait PikiChat. Celle qui a été la plus connue, Plik, c'est après qu'on ait levé les fonds, on avait pu faire un lancement, faire du bruit, etc. Ça a été une cata. On fait un lancement, on fait plus de 100 000 téléchargements dans la nuit. La base de données s'écroule. Bah, en fait, on avait codé le serveur aussi un peu nous-mêmes. Moi, j'avais fait des trucs où ça pouvait pas tenir la charge. Donc, ça s'écroule, ça marche pas. Enfin, bref, très drôle pour apprendre.
OK, donc ça, c'est Plik.
Ouais.
OK, Plik. Ça dure un an, c'est ça?
Ouais, alors juste la partie Plik. Mais en fait, avant, nous, ça faisait déjà un an et demi qu'on avait lancé des apps. En total, ça a dû durer 3 ans, je pense, cette période-là d'entrepreneur.
OK. Et sorti de cette période d'entrepreneur, tu te dis, bon, l'entrepreneuriat, on va peut-être arrêter un peu là.
Ouais, bah en tout cas, j'ai pas réussi, quoi. C'est surtout ça, c'est-à-dire, putain, j'ai rencontré quelques personnes autour de moi, on parlait avec Antoine Martin et Alexis Bonillo. Bon, bah, ouais, eux, ouais, ça marche.
C'est le meilleur cas aussi.
Ouais, mais alors, eux, pour le coup, on était vraiment très tôt avec eux, 2012, où ils commençaient, ils avaient Alerteuse dans leur tout petit appartement. Et bon, on n'a pas eu les mêmes trajectoires, heureusement pour eux. Mais du coup, nous, on n'a pas réussi en tout cas. Et du coup, moi, je me dis, bon, bah, faut que je veux rester en tout cas dans ce milieu-là de start-up. Je veux trouver un produit qui me plaît et je veux rester dans le produit, surtout, c'est ce que j'aime faire. C'est là où j'apprécie le plus être. Et je réfléchis à un truc, c'est que j'avais suivi depuis 2011 l'arrivée des VTC en France, Uber en tête de proue. Je vois ça, je me dis, j'ai envie de bosser pour Uber. J'ai vraiment envie. J'adore cette boîte. On devait être en 2015 à ce moment-là, je pense. J'adore cette boîte. Ça fait 4 ans qu'elle existe. Bon, c'est déjà gros, mais en France, c'est pas si gros que ça à ce moment-là. J'ai envie de bosser pour eux. Je regarde sur le site. Tout était aux États-Unis. Moi, j'essayais d'avoir un enfant à cette époque-là. Donc, c'était pas l'idéal de partir de Paris. Donc, un peu triste de voir qu'à Paris, en fait, il y avait aucun job de product libre et assez peu, en fait, dans des boîtes américaines, ils ouvrent pas le produit en France. Et en fait, je regarde les concurrents et je tombe sur Chauffeur Privé, minuscule concurrent de Uber en France, mais qui s'était lancé il y a quelques années aussi, et qui cherche, alors eux, ils cherchaient un head of product B2C, product manager B2C, je crois, un truc comme ça. Et je me dis, OK, il y a peut-être un truc à faire. Le site était horrible, l'app était vraiment pas ouf. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est justement d'arriver à ce moment-là et de se dire... Bah,
apporter de la valeur.
Exactement,
au produit,
c'est encore mieux. Les si le produit est déjà génial...
Toi, tu peux apporter toute la science, tous les bons réflexes que tu avais emmagasinés sur tes expériences d'avant. Quoi.
Ouais, et tu peux avoir de l'impact aussi rapidement. Il y a des petites améliorations que tu peux faire très vite pour les utilisateurs, pour les employés, pour beaucoup de gens. Et donc ça, c'est top. Et je rentre en contact avec eux, je les rencontre, ça se passe bien. Je rejoins l'entreprise en product manager B2C. J'étais rattaché au marketing à l'époque. Et puis je commence à bosser. En fait, au bout de quelques semaines, rapidement, le fondateur, Yann, me dit « Ah, mais c'est cool, mais en fait, viens direct bosser avec moi. » Et puis au bout de quelques semaines, juste B2C. De toute façon, il n'y a personne pour le B2B et pour les ops, pour la supply, les chauffeurs. Donc, prends les trois et puis commence à recruter ton équipe. Donc, j'ai commencé à recruter mon équipe. Et puis, je suis devenu Deputy Head of Product, puis CPO, jusqu'à ce que je parte un peu plus de 4 ans après. Et entre-temps, on avait été racheté
par Captain.
Par Daimler Mercedes.
Ah oui, d'abord Daimler, pardon.
Et Captain, c'est juste
Captain,
un branding.
C'est le branding. Ouais.
C'est juste renommé. C'est chauffeur privé qui est devenu Captain, qui est devenu Freenow.
Excellent. Donc, tu restes combien de temps en tout chez chauffeur privé ?
Un peu plus de 4 ans.
Ok. Très cool. Ça te fait arriver en 2018 ?
2019, je pense. C'est 2015 à 2019, un truc comme ça.
Ok. Il y a encore quelques expériences après Captain qui arrivent, mais du début de produit jusqu'à Captain, c'était quoi le moment qui te vient en tête, qui a été le plus galère ou peut-être ton meilleur souvenir ? La vague positive ou négative, comme tu veux ?
Je sais pas, vague négative, je pense qu'on les oublie, les vagues négatives. En tout cas, moi, j'arrive à les oublier, donc ça, c'est plutôt cool. C'est jamais agréable quand on part de la boîte avec Adrien et qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et de se poser des questions, et dans un moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que c'est la bonne chose ? Est-ce que je rejoins une boîte ? Donc ça peut être plus compliqué, mais je l'ai pas mal vécu, et puis j'ai rebondi chez chauffeur privé, donc c'était vraiment incroyable, bien qu'à l'époque je pouvais pas savoir ce que ça allait devenir. Et des moments géniaux, chauffeur privé en est un, clairement ça a été un tremplin gigantesque. Je pense que dans les expériences d'avant, j'ai appris énormément en faisant des tonnes de conneries, en apprenant et en mettant les mains dans le cambouis, parce que j'étais first PM d'une boîte qui était déjà assez grosse au final, puis j'ai monté ma boîte et du coup, j'ai appris aussi énormément là-dedans. Ce qui a fait que quand je suis arrivé chez chauffeur privé, j'avais déjà fait assez de conneries pour en faire moins et que ça se passe bien. Et là, ça a été incroyable. L'expérience, c'est une chance de pouvoir vivre ça. Moi, je le recommande souvent quand j'ai des gens qui me demandent, un peu plus jeunes ou qui veulent commencer. Pour moi, en tout cas pour mon caractère, il faut accepter le changement permanent et l'instabilité, parce que t'es dans des boîtes, tu te dis que, en fait, la boîte, ça se trouve, elle peut couler dans les 3 mois, quoi, hein, t'en sais rien. Il faut accepter cette instabilité et être épanoui même dans cette instabilité. Par contre, ça offre des perspectives incroyables, c'est des moments incroyables, c'est des rencontres. Tu bosses avec des gens qui sont simplement talentueux, hyper motivés, t'as un impact qui est grandissant tous les jours, t'as une croissance perpétuelle, etc. C'est incroyable. Donc t'apprends aussi des tonnes. Moi, j'ai appris d'autres choses. C'est que là, du coup, j'ai créé une équipe. J'étais tout seul. Je suis parti, on était plus de 20 dans l'équipe produit. Mais du coup, c'est grandir aussi avec le CTO, avec l'équipe technique, qui, elle, passe à plus de 100 personnes.
En très peu de temps.
Dans la boîte, en très peu de temps. Donc t'apprends, tu bosses ensemble. Ok, l'organisation agile, les tribes et les squads de Spotify, on a dû les mettre en place... à ce moment-là, c'est cool sur le papier, mais quand tu le mets en place, quand tu changes, et puis quand tu dois le faire évoluer, et puis quand ça, les trucs qui marchent moins, les trucs qui marchent, on a testé plein de choses, c'est passionnant. Moi, c'est vraiment une expérience de dingue. J'ai eu beaucoup de chance de vivre ça. J'ai adoré.
C'est vrai que l'hypercroissance, c'est assez dingue. Tu sais, là, on est en train de voir des gens marteler un peu sur le fait que l'économie se retourne, donc les levées d'un coup, c'est pas bien, c'est pas sain, etc. Alors, moi j'entends, tu vois, je suis pas en train de juger autre, mais il y a un truc quand même qui est clair, c'est que quand les boîtes vont vite, lèvent de l'argent très vite, ce que vivent les gens en interne, alors ça peut être très dur, hein. Y a des gens aussi qui partent en burn-out, faut pas éviter ça, enfin faut pas ne pas en parler, mais il y a aussi ce truc de, ça te permet de te donner un cadre pour apprendre hyper vite, mais à des rythmes qui sont, très intenses, quoi. Et si tu viens avec cette énergie et cet état d'esprit que tu vas de toute façon morfler, mais que tu vas apprendre très vite avec des gens très bons, je trouve ça super cool comme école, tu vois.
C'est une des meilleures écoles. Mmh. Après, il faut justement tolérer cette erreur, parce que tu vas faire plein d'erreurs. On veut que tu ailles très vite, donc tu vas faire des petites erreurs. Le but, c'est qu'elles soient le plus petites possible. Moi, je parle souvent du mot d'erreur et des erreurs, ça peut être des toutes petites choses. C'est pas grave. mais en tout cas, ça te pousse à apprendre à une vitesse. C'est absolument incroyable. Et je suis sur les levées, c'est drôle parce que nous, chez les chauffeurs privés, on avait levé que 5 millions. Ça a été revendu très cher. Je ne sais pas, je sais toujours pas si le montant était public ou pas, mais ça a été revendu. Je crois que c'était la 12e meilleure revente de boîte en France. Okay. Donc, c'est assez exceptionnel d'avoir pu participer à ça. Et on avait levé que 5 millions. Et c'est quelque chose que j'ai adoré chez nos fondateurs. Cette frugalité, alors on n'était pas la start-up avec des bonbons partout, des
baby-foot,
des baby-foot à tout va, etc. On a eu une table de ping-pong, mais qui arrivait très tard. On était déjà, je ne sais pas combien on était.
C'est tellement
déjà
symbole.
Une très grosse boîte. Et je pense qu'à un moment, ils ont craqué en disant « Bon, allez, on va y aller, on est obligé, il faut quand même qu'on recrute un peu. » Nos bureaux, c'était vraiment pas les bureaux... Silicon Sentier. On était loin de ça. On était à Issy-les-Moulineaux, dans les bureaux de Microsoft. Après, on a déménagé à Levallois. Avant, il y avait d'autres bureaux un peu plus petits, j'y étais pas. Mais c'est assez génial. Ça fait partie, moi, c'est une ambiance en tout cas que j'ai appréciée, que je cherchais. Et juste en termes d'apprentissage, encore une fois, c'était gigantesque.
Ouais, bon, ce que tu soulignes, c'est globalement, quand tu trouves ton endroit et les gens avec qui t'as envie de bosser, peu importe soit sexy, pas sexy, etc., globalement, t'y vas et tu gardes un bon souvenir parce que t'es à fond dedans, quoi, 100%.
Ouais, c'est clair.
Qu'est-ce que tu fais après Captain, du coup ?
Après Captain, j'ai accompagné une petite boîte dans le travel, Ulysse.
Ouais.
C'était particulier. Je cherchais justement l'expérience suivante. J'adorais ce produit-là. Et moi, quand je cherche une expérience, je cherche un produit que j'adore. Je veux bosser sur un produit que j'adore. C'est Uber, c'est ce qui m'a amené à chauffeur privé, c'est ce qui fait que je pense que je me suis éclaté. Là, c'était dans le travel, j'aime beaucoup, leur produit est incroyable.
Leur vision, c'est de faire un peu comme un Captain Train,
exactement.
Train Line, mais dans le...
Exactement.
Sur les vols, en fait.
Sur les billets d'avion.
J'ai connu la boîte, moi, au tout début, au dépôt de capital. Tu vois, il s'appelait Alexandre...
Ouais. Axel,
j'allais arriver.
Axel et Lancelot. Exactement. C'est toujours eux. Ouais. Ils sont toujours là-bas. C'est Antoine Martin, tu vois, c'est toujours le même truc, qui me dit « Ah tiens, on va voir telle boîte, ils sont super en produit. » Et là, c'est différent, c'est que leur produit est déjà vraiment très très cool. Ils ont un designer qui est incroyable.
La boîte était belle dès le début.
Ouais, leur designer est incroyable. Axel, il est très très fort en produit, il fait des choses vraiment top. Et Axel, surtout, il est déjà product, c'est un product founder. Donc je l'ai rejoint, il n'y avait pas de place en product, et donc on se dit, bon, c'est cool, il y a un fit, je m'entends hyper bien avec eux. Et du coup, j'ai essayé de faire les aider sur les opérations là-bas. On a fait ça quelques mois, et le Covid est arrivé. Covid dans le travel, c'était pas ouf. Et moi en plus en COO, en gérant les opérations, ça me permet de me rendre compte que ce que j'aime faire c'est le produit, c'est cool, je peux les aider parce qu'ils passent par des étapes que j'ai déjà vues chez chauffeur privé ou dans ma boîte, donc je peux donner des petits conseils à droite à gauche, aider sur les trucs, mais c'est pas le bon fit, mais j'investis quand même dans la boîte pour rester à côté d'eux et suivre l'histoire, et donc on parle toujours avec Axel et je suis toujours ça de près. Mais je fais quelques mois là-bas et je rejoins ensuite Se Loger, où là je prends la direction produit de toute la partie B2C. Donc Se Loger, c'est le groupe Se Loger, donc il y a 11 marques chez Se Loger. T'as Se Loger qui est la plus connue, t'as aussi Logikimo, Belle Demeure, Luxe Résidence, Se Loger Neuf. Voilà, il y a 11 grosses marques, donc de gérer toute la partie B2C pour le groupe Se Loger. Donc là, une équipe qui est déjà en place, une équipe produit qui faisait 70 personnes, je crois, au moment où je suis arrivé. Donc rien à voir en termes de sizing.
Mais des problématiques produits costauds, parce que c'est quand même un produit qui est méga complexe aujourd'hui. Enfin, il y a plein de choses de partout, j'imagine.
Ouais, un produit très complexe, un 4. C'est une boîte qui avait déjà été rachetée pour le coup, elle, qui avait été intégrée dans un grand groupe, Axel Springer. C'est plus les mêmes problématiques. À cette taille de boîte, t'es vraiment quasiment plus dans l'opérationnel. Moi, ça me manque un peu parce que j'aime bien aller regarder les Figma, j'aime bien voir ce qui se passe, j'aime bien assister au stand-up, j'aime bien, on en parlera dans les 90 jours, mais c'est un truc que j'aime faire. Quand t'as une boîte de 70 personnes, c'est compliqué de le faire parce que déjà, tu peux bypasser des gens, ça peut être mal pris par certaines personnes qui ont l'impression que tu veux faire leur job, etc.
Sure.
Donc, plus compliqué. Après, pareil, j'ai pu apprendre beaucoup d'autres choses là-bas parce que justement, pas la même taille de boîte, pas les mêmes défis, pas les mêmes besoins. Ils avaient besoin d'autres choses, que j'apporte d'autres choses, que je ne savais pas forcément faire. Et que donc, j'essaie d'apprendre sur le tas et de mettre en place là-bas, de réorganiser les équipes design, bosser avec les équipes en place, etc. et faire un certain nombre de choses là-bas.
Ce que je note, c'est que tu as fait quand même des boîtes très différentes et même pas dans un ordre chronologique, c'est-à-dire que tu as fait petite boîte, grosse boîte un peu, tu vois, quand je t'écoute. Tu
vois, plutôt fait de petit à gros, j'ai plutôt grossi dans l'ordre. J'ai commencé la première, on était 15, après il y a eu ma boîte, après chauffeur privé, ils étaient déjà plus que 15, ils devaient au moins être une trentaine quand j'ai rejoint.
Tu refais Ulysse, tu repars
sur Après je repars sur Ulysse, là c'est l'appel du cœur. C'est l'appel du cœur.
C'est pour ça que je dis ça, c'est qu'il y a eu quand même des étapes où tu es reparti sur du léger, enfin du léger du petit, et tu es reparti sur du gros.
Ouais.
Est-ce que tu réfléchis tout ça ou est-ce que non, tu te laisses porter et, enfin, en gros, j'ai un peu deux questions. C'est qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères le petit ou le gros ? Et est-ce que tu réfléchis à cette carrière entre guillemets où tu vas vraiment à l'instinct à chaque fois ?
Je réfléchis pas trop en termes de carrière. Par contre, je réfléchis évidemment beaucoup les choix avant de me dire est-ce que c'est la bonne chose, parce que c'est beaucoup de temps de passer, de faire des entretiens, de changer de boîte, d'arriver, d'onboarder. Et puis, si tu t'en rends compte qu'au bout de quelques mois, c'est de la perte de temps pour tout le monde, pour la boîte, pour toi. Donc, je l'ai réfléchi, mais je fais des tests. Et je pense que c'est un point, j'essaye. En gros, on en parlera plus tard, je crois. Mais bon, je pense qu'une chose qui est importante, c'est d'oser, d'essayer. Bon, j'ai osé, j'ai essayé des trucs. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. Et ta deuxième question, qu'est-ce que je préfère ? Je préfère, je pense, les plus petites structures parce que plus d'impact, parce que je peux plus m'épanouir dedans. J'aime bien les grosses structures parce que j'y apprends beaucoup de choses et je découvre quelque chose que je connais pas du tout. Et je pense que ça me sera utile. Donc j'aime beaucoup aussi évoluer là-dedans. Mais là où je pense que j'ai le plus d'impact et de valeur, c'est sans doute sur les plus petites structures, mais peut-être plus les toutes petites. C'est pour ça que je pense que mon sweet spot, il est plus entre 30 et 200 personnes pour aider à faire grandir. S'il y a déjà une petite équipe produite, tant mieux. L'aider à faire grandir, à construire et à aider la boîte à scaler, quoi.
Trop bien. Bon bah écoute, merci beaucoup Rémi. On a appris plein de trucs sur toi, on sait ce que tu fais. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que t'es prêt ?
Yes.
Allez, c'est parti. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter Clé de Voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, c'est parti Rémi, pour cette deuxième partie, de quoi tu veux nous parler ?
Eh ben moi, je vais vous parler de l'arrivée d'un CPO dans une boîte, donc les 98 premiers jours d'un CPO.
Trop bien, les 90 premiers jours d'onboarding d'un CPO dans une boîte. Est-ce que ça, c'est un truc qui est valable aussi bien quand t'es CPO dans une petite boîte qu'une énorme boîte, selon toi ? Ou est-ce que ça va plus sur une typologie de boîte qu'une autre ?
Non, non, c'est valable, peu importe le type de boîte. Alors évidemment, les 90 premiers jours sont différents et ça va changer quand t'arrives et que t'as pas d'équipe produit dans une toute petite boîte ou quand t'arrives dans une grosse boîte et que t'as déjà une équipe produit de 70 personnes.
Ouais.
Ça change, tes 90 premiers jours n'ont rien à voir, mais pour moi, le principe reste le même. En tout cas, j'essaie de faire les mêmes choses.
Trop bien. Comment tu veux aborder ça ? Est-ce que t'as pensé un peu à une chronologie des étapes ?
J'ai surtout pensé à. J'ai essayé de regarder justement ce que j'avais fait. Et je pense que j'ai souvent reproduit ça, mais pas de la même façon. Et au fur et à mesure, en 10 ans, j'ai un peu structuré et mieux organisé cette partie-là. Et moi, j'essaie de commencer par une partie plutôt rapport d'étonnement, avec un but qui est assez simple, c'est écouter, apprendre et découvrir. Je pense que c'est hyper important. Mais donc, il y a ce rapport d'étonnement et que je découpe en 3 parties. Et voilà.
Trop bien. Bah écoute, on va bosser sur ce rapport d'étonnement.
Yes.
Let's go. Comment tu veux commencer ? Ce rapport d'étonnement, c'est quoi déjà ? Ça veut dire quoi ? Et comment est-ce que tu l'appliques quand tu débarques dans une boîte en tant que CPO ?
Rapport d'étonnement, c'est le mot, connu. Mais derrière, j'y mets des choses assez simples. C'est prendre du temps avec le CEO en général, parce que tu rapportes au CEO, mais pour... discuter de tout ce que j'ai pu voir sur mes 90 premiers jours. Alors c'est pareil, des fois t'en as pour moins de 90 jours, tu le fais en 2 mois, des fois ça peut être un petit peu plus long. Mais c'est en tout cas prendre le temps de discuter et d'échanger sur tout ce que t'as pu comprendre a priori de la boîte. Je dis a priori parce que je pense pas qu'on puisse avoir la prétention de dire qu'en 90 jours on a tout compris d'un business, d'une boîte, d'une entreprise, d'une culture ou même de gens, alors que la boîte existe des fois depuis des années et des années, donc elle a un passé. Les choses qui sont telles qu'elles sont, c'est pour une raison. Et donc il faut comprendre ces raisons, les analyser, et on peut pas juste arriver et dire « Ah bah moi j'ai tout compris, il faudrait mieux faire ça ». Bah non, moi je suis plutôt sur « Ok, moi j'ai vu ça, ça me semble bizarre parce que dans mes expériences passées, j'avais pu voir que, ou parce que dans ma conception des choses, c'est différent, ou parce que ce que j'ai vu du produit dans d'autres boîtes, c'est, peu importe la raison, mais en tout cas, plutôt mettre ce sujet sur la table. Et voir ensuite, au fur et à mesure de l'échange, de comprendre, ok, est-ce que en fait, il y a une bonne raison pour laquelle c'est comme ça et il faut le laisser tel quel, ou en tout cas, est-ce que c'est comme ça pour telle raison et il va peut-être falloir le faire évoluer de telle façon, ou est-ce que, ben non, c'est comme ça, mais pas pour des bonnes raisons, et dans ce cas-là, il va falloir les changer. Mais en tout cas, ce rapport d'étonnement, il peut prendre déjà plein de formes, ça peut être, tu peux en faire une presse si tu veux, mais moi, j'aime bien le mettre juste sur un Notion qui me sert de support de discussion, donc c'est vraiment, après, prendre une heure, deux heures avec ton fondateur ou avec ton comex sur certains sujets si tu veux élargir, pour aborder tout ce que tu as pu voir et de dire bah, « Tiens, j'ai vu ça, ça sur la culture, ça me semble particulier. Tiens, sur le produit, tiens, sur l'équipe, etc. »
Est-ce que tu suis une démarche pour ça? C'est-à-dire que le rapport d'étonnement, premier jour où tu débarques dans la boîte, tu programmes directement un échange avec les cofondateurs, ou est-ce que tu prends un peu de temps, justement, pour sentir un peu ce qui se passe, interviewer des gens et ensuite construire ce rapport d'étonnement? Comment il est fait?
Non, je prends vraiment le temps. Alors évidemment, les cofondateurs, tu les vois dès le début, mais en tout cas, je ne leur fais pas le rapport d'étonnement dès le début. Il peut s'étaler vraiment sur un peu de temps, parce que le temps que tu comprennes, il y a des choses que tu vas très très vite voir. Il y en a d'autres que tu vas mettre un peu plus de temps à voir, à déceler. Tu vas avoir des signaux faibles, et c'est ces signaux faibles que tu vas pouvoir aller creuser. Par exemple, dans ce rapport d'étonnement, moi, j'essaie de participer à un maximum de stand-up des équipes tech. Donc, quand t'es dans une boîte où t'as plus de 10 équipes tech, si tu veux arriver à en faire un ou deux par semaine, que t'essayes de te libérer, même si t'en fais un tous les jours, le temps que tu tournes, le temps que t'arrives à avoir fait 5 ou 10 stand-up par équipe, ça te prend du temps.
Et un mois et demi, quoi.
Pour moi, c'est important parce que c'est dans ces échanges-là, dans ces moments-là, que tu vas déjà apprendre le lexique de la boîte, c'est quoi le nom des microservices, c'est quoi ces trucs-là, et qui fait que tu vas être aussi plus mêlé dans le produit directement, et que tu vas déceler tout un tas de choses sur les moyens de discussion, sur les échanges, sur les process produits qui sont mis en place, sur la culture qui est à l'intérieur, et c'est ça qui va te permettre de découvrir. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais je le structure. Au fur et à mesure, j'ai structuré un petit peu plus la chose, et maintenant j'ai mon Notion à l'intérieur, j'ai des questions que je prépare et j'essaie de rencontrer toute l'équipe produit quand elle est là, minimum. Puis ensuite, tous les gens avec qui l'équipe produit travaille, tous les stakeholders, le marketing, les ops, les commerciaux, peu importe. Évidemment, côté dev, côté tech, rencontrer des gens, tech, data, etc. Et évidemment, ton comex. Une fois que tu as vu tous ces gens-là, que tu as participé à un certain nombre d'éléments de vie de la boîte, que tu as pu poser beaucoup de questions, etc., bah à partir de ça, au fur et à mesure, se construit cette espèce de rapport d'étonnement. Et donc, j'ai une première phase où je le construis, j'ai une phase suivante où je l'analyse, c'est-à-dire que je vois tout ce que j'ai noté, je le mets en forme, j'essaye de regrouper. Il y a plein de choses qui retombent sous le même thème, donc les regrouper sous un même thème, et essayer de trouver des points d'action. Et pas forcément les mettre en place tout de suite, les points d'action, mais en tout cas se dire, bon bah voilà, j'ai tel thème dans telle catégorie, je pense que le point d'action, à mon avis, pour le faire évoluer, ça devrait être celui-là, et on pourrait faire que telle personne pourrait être honneur de cette partie-là. Est-ce que c'est nous au produit, est-ce que c'est côté marketing, est-ce que c'est ailleurs, et se le répartir comme ça.
Hyper intéressant. Le script que tu utilises pour ces fameux... Tu parlais de questions que tu notais, ouais, sur le rapport d'étonnement. Est-ce que c'est un script qui est un peu universel et que tu fais évoluer un tout petit peu, ou pas du tout, en fonction des boîtes? Ou est-ce que vraiment c'est un nouveau script à chaque boîte que tu as fait de toi? Je ne sais pas si d'ailleurs tu le fais depuis longtemps, ce rapport d'étonnement, parce qu'il t'a fallu peut-être un peu de bouteille avant de pouvoir le monter. Ouais. Y a deux questions, désolé.
Non, t'inquiète. Je ne le fais pas depuis très longtemps. En fait, je pense que j'ai toujours fait cette phase de rapport d'étonnement, mais je l'ai structuré, exactement. Et le fait de l'avoir structuré autant, c'est assez récent. Et donc, je n'ai pas fait des dizaines de boîtes, mais je ne l'ai pas fait dans énormément de boîtes sous ce format très structuré. Les questions... Il y a beaucoup de questions très génériques qui sont juste comprendre les gens, hein, savoir d'où ils viennent, leur background, où ils veulent aller. T'as des questions particulièrement... moi, j'ai, en fait, en les posant et en ayant la réponse, j'ai adoré ces questions-là parce qu'elles te permettent de comprendre plein de choses. Par exemple, t'as une question qui est quand t'arrives dans une boîte et que t'es pas le premier fondateur, que t'es pas le premier product, et encore même à ce moment-là, ça s'adapte. C'est-à-dire, bon, bah, avant, t'avais un manager qui n'était pas moi. Qu'est-ce que faisait ce manager et que tu veux absolument que je continue de faire? Et c'est important parce qu'il y a des choses qui se passent très bien avec les managers d'avant, et d'être sûr de voir si on a envie d'assurer cette continuité. Il y a des choses qui vont vouloir, qu'on va peut-être pas pouvoir faire, mais en tout cas d'avoir cette réponse-là. Et à l'inverse, ton manager d'avant, est-ce qu'il y a des choses qu'il faisait que tu n'as pas du tout envie que je fasse? Et c'est pareil, tu apprends des choses et tu dis, ah ouais, il allait faire du micromanagement sur ce truc-là et ça, c'était chiant que tel truc. Ok, tu le prends en compte et ça t'aide. Et moi, j'ai toujours, quand je pose ces questions-là, je me dis toujours, tiens, qu'est-ce que répondraient les personnes que j'ai pu manager dans les équipes? Et ça te permet de dire, tiens, je pense qu'ils répondent ça. Moi, je leur pose la question souvent quand je pars, donc j'ai déjà des éléments, mais ça te permet d'apprendre aussi sur toi-même et de voir ce que tu peux faire évoluer dessus. Mais voilà, il y a une partie des questions très génériques, une partie des questions qui sont adaptées vraiment à la boîte pure sur, selon toi, quel est l'objectif principal de la boîte. Très important, parce qu'en fait, ça te permet de savoir s'il y a une vision produit établie. Si tu demandes en général aux fondateurs, ils vont te dire que oui. Si tu demandes à 20 personnes et que tu as 12 trucs différents, tu te rends compte que non. En fait, des fois, c'est juste qu'elle est un petit peu... Tout le monde va à peu près dans la même direction, mais c'est juste qu'il y en a, ils mettent l'objectif sur un KPI et d'autres sur d'autres KPI, etc. Mais ça te permet en tout cas de structurer là-dessus et d'avoir des informations sur la culture, sur beaucoup de choses.
C'est hyper cool, t'anticipes vraiment la continuité et tu fais en sorte que à la fois le produit avance, mais aussi que les équipes, ça continue de bien se passer, ou que ça se passe mieux, plutôt que l'inverse, parce qu'il y a aussi des CPO qui débarquent et la culture est tellement en décalage avec celle de la boîte, je veux dire la culture du CPO, que ça peut créer des frictions. Enfin, moi j'en vois tout le temps, hein, des CPO qui partent très vite ou autre, et c'est normal quoi. Juste sur ce rapport d'étonnement là, donc tu disais que tu faisais un peu de. T'étais présent à des stand-up par exemple. Est-ce que tu es actif ou est-ce que tu es un peu en shadow, enfin en passif sur ces stand-up?
Passif.
T'es dans l'observation.
Sur les stand-up, je suis vraiment passif. J'essaie de très peu parler. Ce que je fais, c'est que plutôt je note et qu'à la fin, soit je vais voir le PO ou le PM s'il est là, soit les devs ou peu importe. Je leur dis, tiens, vous avez parlé de ça, c'est quoi ce truc? Ah bah ça, c'est le microservice qui fait souvent des noms de microservices pas forcément les plus évidents. Ah ok, c'était parti, tiens, vous avez parlé de ça, pourquoi? Ou tiens, ce truc, je comprends pas, ça fait une semaine que j'en entends parler, pourquoi ça traîne? Et tu vas plutôt poser des questions. Mais pendant, le but, c'est de pas perturber. Et au global, je trouve que dans les 90 premiers jours, il faut vraiment être dans une attitude d'écoute, d'apprentissage, de découvrir moins dans « ok, il faut faire comme ça, ok, il faut changer les choses ». Parce que ça peut être compliqué, et on arrive dans une entreprise, donc il faut aussi que les gens nous découvrent et qu'on mette les choses en place ensemble. Et en plus de ça, je trouve que le CPO, il doit être la personne qui représente la disponibilité et l'écoute. Parce que t'as besoin, l'équipe produit a besoin d'être identifiée comme l'équipe qu'on va voir quand on a une idée, quand on a un utilisateur qui nous remonte quelque chose, quand on a un feedback, quand soi-même on a testé l'app et qu'on a eu un problème, ou le site, ou peu importe. Il faut que tous les gens de la boîte aient ce réflexe-là. Donc toi, il faut que tu montres, il faut que tu l'incarnes, parce que t'es une incarnation de cette équipe-là, que telle écoute, que quand on vient te voir, t'envoies pas bouler les gens, ou on dit pas « non, c'est de la merde ». Non, bah attends, si tu le dis, il y a une raison. On peut ne pas être d'accord, ou ça peut ne pas être lié à nos objectifs, ou c'est peut-être pas prioritaire, peu importe, tu peux en discuter et l'expliquer, mais en tout cas, il faut que tu sois celui qui reçoit, qui analyse, qui essaye de comprendre, et qui ensuite en fait quelque chose, le priorise pas, et explique pourquoi, mais c'est important. Donc, dans ces 90 premiers jours, pour moi, t'es dans une attitude plus passive, en tout cas, vis-à-vis de toute la boîte. Quand tu participes au stand-up, c'était la question. Tu vas être dans des parties un peu plus actives au fur et à mesure, par exemple, avec les gens de ton équipe. Tu vas pouvoir commencer à être dans plus de l'actif pour les aiguiller, les diriger, leur donner des directions, les accompagner sur des choses à faire. Pareil avec ton COMEX, où pour le coup, tu peux être plutôt dans l'action très très tôt et être tout de suite sur la mise en place de certaines choses.
Hyper cool. Et toi, tel que tu l'as fait, c'était toujours bien reçu d'être dans une attitude à peu près passive les trois premiers mois et de dire bah, j'ai besoin de ça en fait pour pouvoir passer, mettre en place des choses derrière, plutôt que de passer directement à l'action, parce que j'imagine qu'il y a des cofondateurs qui vont vouloir directement que tu montres un peu que tu coûtes cher, tu as été embauché, il faut aller vite, il faut que tu changes les choses, que tu révolutionnes la terre entière. La vérité, c'est que c'est pas toujours très efficace, parce que d'une part, les équipes, faut qu'elles s'habituent à toi. Elles ont toujours peur du grand méchant loup qui va arriver et qui va tout casser. Toi, ça n'a jamais été un problème dans tes boîtes
Pas un problème, mais effectivement, c'est une question que tu peux avoir. C'est mieux de l'aborder directement dans l'entretien, hein, dans ce que tu attends. D'ailleurs, chez Sologer, dans mon case d'entretien, il y avait mes 90 premiers jours. Et donc, on me demandait, OK, qu'est-ce que tu vas faire dans tes 90 premiers jours? Donc un problème non, mais en tout cas se mettre d'accord, parce qu'effectivement le problème, il n'est pas avec l'équipe produit, parce que les gens de ton équipe, ils le comprennent et ils sont plutôt même contents de ça. C'est-à-dire qu'ils voient que tu comprends, et au moment où tu entres dans l'action, t'es déjà plus légitime parce que tu connais mieux, tu comprends mieux, t'as parlé à des utilisateurs, t'as analysé la vision produit, t'as analysé le marché, t'as analysé beaucoup de choses. Si t'arrives et tu dis non, faites comme ça, mais qu'en fait, tu sais pas pourquoi, c'est différent. Après, si t'arrives, si, j'en sais rien, tu bossais chez Deezer, tu bossais chez Spotify et t'arrives chez Deezer, bon bah.
Tu connais un peu le produit, déjà.
Ouais, tu vas peut-être sans doute pouvoir plus être dans l'exemple. Moi, je crois que ça m'est jamais arrivé de. J'ai switché de marché à chaque fois de manière assez importante de la musique au social, au travel, enfin au VTC, puis à l'immobilier. Des trucs qui n'ont rien à voir, donc c'est compliqué. Tu arrives dans l'immobilier. Non, il faut faire ça. Attends, ce que tu as fait pour des VTC dans l'immobilier, ça ne marche pas pareil. Les clients, ils ne sont pas pareils. Nos utilisateurs, ils n'attendent pas la même chose, ils ne viennent pas pour le même besoin, ils n'ont pas le même timing, etc. Mais effectivement, ça vaut le coup de se mettre d'accord. Et avec l'équipe produit, je pense que ça ne pose pas de problème. Avec les équipes, des fois, qui est à côté, ça peut être pas poser problème, encore une fois, mais ça peut être un sujet de discussion parce que tu peux avoir un marketing ou des commerciaux qui disent « Ah, c'est cool, t'es arrivé, la roadmap, il faut la changer. » Ok, je vais pouvoir te donner mon avis. Je vais pouvoir essayer de l'analyser, je vais pouvoir essayer de la comprendre. M'attends pas à ce que là, en 3 semaines, je te sorte la roadmap pour les 3 prochains mois, parce que ça demande un niveau de compréhension fin que je pourrais pas avoir seul. Je pourrais donner des avis, je pourrais donner des idées, je pourrais participer, travailler, etc. Mais en tout cas, je n'ai pas la prétention de dire je suis capable de te donner la meilleure roadmap possible des 3 prochains mois, là, avec 3 semaines de background sur ce marché-là et sur cette équipe et sur ce produit.
Top. Une fois que tu as monté du coup toute cette analyse et collecter toute la matière pour créer ce premier rapport. Donc ça, ce rapport d'étonnement, tu le fais à une date, par exemple, que tu donnes à tes cofondateurs, ou c'est un peu genre un rituel de meeting que tu as avec eux, d'interaction que tu as avec eux, et au fil de l'eau, tu leur livres un peu ce que tu vois. Comment ça se met en place?
Alors j'avoue que souvent je bénéficie, vu que tu les vois toutes les semaines, ou tu prends un moment et tu dis, bon bah celui-là, on va prendre 1 heure et on va parler que de ça. On fera peut-être pas les sujets habituels qu'on a l'habitude d'aborder. Et puis tu peux le déballer, et ça c'est un peu enfin ça change pas grand chose, quoi.
Ouais, tu le répartis, quoi.
Ouais, exactement.
Et à un moment où il y a une autre porte qui s'ouvre, c'est-à-dire que tu te dis bon bah moi je pense qu'on a passé ce stade de compréhension de la boîte, je commence à comprendre ce qui se passe. Alors je connais pas tout, comme tu le dis, en 90 jours c'est impossible, mais t'as peut-être, tu vois, 60% de l'info, 70% de l'info qui vont te permettre de pouvoir vraiment commencer à plancher, prendre ta casquette de CPO, prendre des décisions, etc. Ça se fait quand, ce truc-là, et c'est quoi la transition post-rapport d'étonnement?
Ça dépend beaucoup de la boîte, mais je trouve que ça vient souvent avec les séquences de priorisation de la boîte telles qu'elles sont au moment où tu arrives. Selon comment est faite la priorisation des sprints, selon comment est fait, est-ce que tu es au trimestre, au quadrimestre, est-ce qu'il y a une priorisation qui est faite tous les mois, ou peu importe. En fait, le rapport d'étonnement, il permet d'anticiper et de préparer en tout cas cette étape-là, parce que tu vas découvrir justement tout ce qu'on a dit et tu vas être beaucoup plus efficace et beaucoup plus actif dans la prochaine séquence de priorisation. Donc en général, ce qui est un peu pénible, c'est si tu arrives au milieu d'une séquence, du coup sur la séquence d'après tu n'es pas encore hyper effectif et ça va être un peu long, et en fait la prochaine elle aura lieu que dans 3 ou 4 mois. Moi ça peut être un peu long, mais tout au long de cette séquence-là actuelle à laquelle tu n'auras pas participé, tu seras quand même actif parce que bah, tu peux rentrer aussi dans les sprints, tu peux rentrer aussi dans la priorisation qui est faite de ces sprints-là, et donc tu vas quand même y participer.
Ok, hyper clair. Pour qu'on voit un petit peu mieux comment ce rapport d'étonnement est fait, donc là on a essayé d'un peu de parler de comment tu l'appliques et comment il se situe d'un point de vue relation avec tes équipes et les cofondateurs. Il est structuré comment, ce rapport d'étonnement? Tu nous as dit tout à l'heure que c'était sur une page. Donc comment il est fait en termes de structure et à quoi ressemble la page? Si tu peux nous livrer un template ou autre, on sera ravis.
Ouais, alors il est sur un Notion, ouais. Dessus, moi aujourd'hui je le fais là-dessus, mais il peut être fait sur à peu près n'importe quoi. Et effectivement je le divise en 3 grosses parties, je le divise en une partie sur l'équipe produit, une partie sur le produit lui-même et une partie sur l'entreprise, qui me semble être 3 grosses parties, et à l'intérieur de ces parties-là je regroupe sous forme de thèmes. En fonction de ce que j'ai eu, l'équipe produit, le but c'est vraiment de discuter avec le maximum de personnes de l'équipe produit, tout le monde et les principaux acteurs, tous les gens qui peuvent entourer cette équipe produit-là.
Quand tu dis principaux acteurs, c'est quoi ? C'est marketing, sales, tout ça ?
Ouais. Ops, service client. Tous les gens qui peuvent interagir avec ton équipe produit. Parce que dans les priorisations de tes sprints, c'est des gens à qui tu vas demander des feedbacks. Ouais. Parce que c'est des gens qui travaillent avec tes PO, parce que c'est des gens qui travaillent avec tes designers, parce que peu importe. Donc il y a vraiment cette partie-là, comprendre ton équipe, comprendre dans quoi tu mets les pieds, le passé qu'a eu cette équipe-là, comment elle fonctionnait avant que tu arrives, s'il y en a une, comment elle fonctionnait avant, ce qui marchait moins bien, ce qui marchait bien, là où ils aimeraient progresser, ce genre de choses. Il y a une deuxième partie qui est, et donc pour faire ça, cette partie-là, je prépare un set de questions, une vingtaine de questions, je pense, que j'adapte à l'entreprise, mais je prépare un set de questions, et là, je rencontre toutes ces personnes-là, je leur pose les mêmes questions, et en fonction des réponses, effectivement, on va dans certains détails pour certaines personnes, dans d'autres moins, mais je note tout, parce que dans la deuxième phase où j'analyse justement ce rapport d'étalement, souvent je retourne regarder et me dis « Ah tiens, ouais, telle personne », ou des fois même je fais des espèces de mini-stats ou des trucs, tu vois, tu demandes « Ah tiens, tu faisais quoi avant ?» Ok, cool, savoir le background de la personne. Ok, mais t'as combien d'années d'expérience ? Juste savoir depuis combien de temps tu bosses dans le produit ou équivalent. Et en fait, à la fin, tu te rends compte, quand t'as 20 personnes, tu dis « Bah tiens, c'est marrant, l'expérience moyenne, elle est de 1 an dessus, bon bah peut-être falloir faire quelque chose pour essayer d'accompagner et d'aider les gens à grandir dans la boîte. Au contraire, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, bon, y a moins besoin de cette partie-là. Donc tu peux sortir un peu des chiffres là-dessus. Il y a une autre partie qui est, que moi j'adore, qui est de découvrir le produit en lui-même, et là c'est de découvrir le produit dans le détail. Pour moi, il y a plein de façons de le faire. Une des meilleures façons, c'est de le tester intégralement, d'aller dans tous les moindres cas, et puis de rentrer, de faire... Chez Chauffeur Privé, je me souviens, je l'ai fait, et en fait, j'ai pas du tout fait exprès de le faire, et je me suis rendu compte que ça avait été un apprentissage gigantesque, c'est que, quand j'étais arrivé, il devait y avoir une grosse release de l'app qui devait être faite, c'était la mise en place de la majoration, qui était un gros changement, parce que tarifaire, tu mets en place du pricing qui évolue, etc. Et j'étais arrivé hyper tôt un matin, parce qu'on activait la mise en prod, je sais plus, à 9h un matin, un truc comme ça, donc moi j'avais dû arriver 2 ou 3 heures avant, et faire tout le plan de test, tout rejouer le plan de test, on n'avait pas de QA à l'époque, tout tester, aller dans les moindres détails. Et j'avais fait des screenshots de tous les écrans les uns après les autres, je les avais mis dans un, c'était Sketch à l'époque, dans un Sketch, j'avais tout mis les uns sur les autres, pour avoir, j'avais toute l'app qui était intégralement répertoriée dessus. Et en fait, en faisant ça, ça te permet de rentrer dans le produit, de connaître beaucoup plus en détail comment il est fait, ce qu'il peut y avoir, lire la FAQ, évidemment lire les Notion et les confluences que tu peux avoir dans l'entreprise, participer au stand-up, on en parlait tout à l'heure, mais pour moi c'est un point important qui t'aide à comprendre le produit, parce que tu vas le comprendre par une autre porte, t'as la porte du produit pur, tester ton produit, t'as la porte juste par la tech, par la stack tech, ça t'aide à comprendre ton produit, comment il est fait, comment il marche, où est-ce qu'il y a de la dette, où est-ce qu'il n'y en a pas, quels sont les noms et qui vont te permettre de comprendre. Lire les commentaires des stores, et évidemment parler à des users, et selon la boîte dans laquelle t'es, ça peut être parler à des users et ou parler à des clients. Parce qu'on a un peu trop tendance à souvent dire « Ok, je parle avec les gens qui utilisent, et puis je leur demande leur feedback. » Mais en fait, il y a aussi les gens qui payent.
C'est intéressant.
Et quand tu as du B2B, du B2B2C ou du B2C, bah, en fonction, mais parler en tout cas un maximum aux gens qui utilisent eux ton produit, parce que les gens en interne ne sont plus des utilisateurs, c'est un truc avec lequel il faut aussi un peu se battre en produit, mais ils ne sont plus des utilisateurs normaux très rapidement au bout de quelques semaines où ils rejoignent la boîte, ils ont un usage détourné, ils ont un usage, ils ne sont plus une personne qui découvre l'app, etc. Donc très important de faire cette partie-là. Ça c'est la deuxième partie, en gros l'équipe produit, le produit, et la dernière pour moi c'est l'entreprise. Ce travail, tu le fais en général un petit peu avant de rejoindre, parce que tu check la culture, tu check, tu t'en rends compte un peu pendant les entretiens, mais c'est une fois que tu rentres dans la boîte que tu le vois vraiment. L'onboarding, pour moi, est absolument important. Faire l'onboarding comme tout le monde, parce qu'en général, tu n'as pas un onboarding très poussé quand tu es CPO. C'est souvent le CEO qui t'encadre. Ce n'est pas la personne qui a le plus de temps disponible dans son agenda pour être capable de te montrer tous les outils, te montrer comment ça marche, te donner. Donc, tu fais un peu à ta sauce. Mais participer à l'onboarding, quand il y en a un, parce que tu rejoins une boîte un peu plus grosse, tu notes tout, comment les choses sont présentées, comment elles sont dites, etc. Et c'est hyper intéressant parce que c'est ce que tous les gens qui vont rejoindre ta boîte vont voir la boîte dans laquelle t'es. Donc c'est comme ça qu'eux, ils connaissent cette boîte-là. C'est pas les fondateurs qui l'ont créée ou les gens qui sont là depuis 5 ans. Les gens qui viennent d'arriver, bah tiens, on leur dit ça. Et quand tu peux remonter dans ton rapport d'étonnement, en disant, bah, c'est particulier parce que tous les nouveaux, voilà ce qu'on leur montre. Voilà ce qu'on leur donne. Et par contre, quand on demande aux gens quels sont les objectifs des gens qui sont là depuis plusieurs années, ils disent ça. C'est déjà pas aligné entre les gens qui viennent d'arriver et les gens qui sont là depuis longtemps. Il y a peut-être un problème.
Avec ce biais en plus que toi, tu es onboardé en tant que CPO, donc on pourrait croire que soit ils n'ont rien à te montrer parce qu'ils ont un peu peur, soit à l'inverse, ils en font des caisses parce que tu es CPO, tu n'es pas la personne lambda.
Forcément, c'est un peu biaisé. Quand tu as des onboarding en one-one, oui, c'est un peu biaisé. Ouais. Et tu peux avoir des réponses que peut-être les autres n'auront pas.
C'est intéressant de voir quand même ce qu'ils font.
Ouais. Ouais. Et, mais tu as des onboarding collectifs aussi. Dès que tu rejoins des boîtes un peu plus grosses, c'est des sessions d'onboarding où les gens sont par 5, 10, 15, 20 plus, des promos d'onboarding et où ils les voient. Mais moi, ça, c'est pas dans les 90 jours pour le coup, mais c'est un truc que j'essaye de faire, qui marche plus ou moins bien, pour être honnête. J'aimerais que ça marche beaucoup plus que ça, mais j'ai pas encore réussi à le faire marcher très bien. Je demande à tous les gens qui rejoignent la boîte de booker 30 minutes avec moi dans les 3 semaines où ils ont rejoint la boîte.
Tout le monde.
Ouais, alors, modulo la taille de la boîte, encore une fois, si tu rejoins un groupe de 10 000 personnes, on est d'accord que c'est complètement impossible, mais quand tu rejoins des plus petites boîtes, des scale-up, tu peux encore le faire, ou en tout cas réduire un certain nombre de gens. Mais pour moi, c'est important parce que c'est plutôt connaître leur passé, ça marche bien dans du B2C, d'usage avec le produit, et de savoir ce qu'ils pensent du produit avant qu'ils soient totalement biaisés. Et donc je leur pose des questions, en gros, ce qu'ils aiment sur notre produit, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils changeraient, ce que pensent leurs amis du produit, etc. Le but étant de regrouper un maximum de feedback par les gens qui nous rejoignent, qui sont encore débiaisés de tout ce qu'ils vont pouvoir connaître en ayant rejoint l'entreprise. Et voilà, et du coup, c'est ces trois grosses parties qui construisent ce rapport d'étonnement, qui vont être l'équipe produit, le produit en lui-même et l'entreprise.
Est-ce que ça t'arrive, une fois que tu as fait, je sais pas, un an et demi dans la boîte, que tu as passé cette phase de 90 jours, de revenir sur ce rapport parce que tu as besoin de comparer des notes que tu avais faites au début, peut-être noter de la progression de l'évolution, ou est-ce que c'est pas une pratique que tu as mise en place ?
Non, alors ça, je n'ai pas fait. Par contre, au fur et à mesure, après, j'ai d'autres docs où je vais noter tout ce que j'entends. Et là, je reviens dessus. Mais pas dans ce rapport d'étonnement-là. Le but, c'est que le rapport d'étonnement, c'est un peu la transition, mais ce rapport d'étonnement, il te permet d'amorcer sereinement de la phase suivante, qui va être justement de soit de rejoindre la prochaine séquence de priorisation, si tu as la priorisation du prochain quarter qui peut arriver, soit définir la stratégie produit, la vision produit. Parce que quand tu rejoins une boîte, tu as aussi souvent une attente qui est mise de dire « Ok, bah, tu définis la vision produit, où est-ce qu'on doit aller, pourquoi on doit le faire, etc. » Ce qui est assez souvent le cas. Et en fait, cette partie analyse, elle te permet d'aller vers cette phase-là parce que tu as mieux compris l'entreprise, tu as mieux compris ton produit, tu as mieux compris ton équipe produit. Et donc, tu es capable de mieux définir et de définir cette stratégie produit. Donc là, tu vas la définir. Donc en gros, pour moi, ça, ce rapport d'étonnement, il permet d'être converti en une liste d'items et d'actions que tu peux faire. Un de ces items, c'est construire la vision produit, la stratégie produit de l'entreprise que tu as rejoint. Mais tu peux avoir plein d'autres items beaucoup plus petits sur des petits points d'action, des petites choses à changer. Et c'est plutôt là-dessus que je vais retourner voir. Mais ça, je vais l'alimenter en permanence. C'est pas juste pendant le rapport d'étonnement où je l'alimente, c'est juste qu'il permet de le construire. Puis ensuite, tu vas l'alimenter au fur et à mesure. Et puis au bout de 6 mois, bah, tiens, tel truc qui va pas, hop, tu le mets dedans. On n'a pas le temps de s'en occuper tout de suite, ou c'est pas la prio, mais il faudra qu'on se mette sur l'onboarding, j'en sais rien, des designers, parce qu'il faut qu'on l'améliore. On peut faire des choses où on a vu que dans telle boîte, il faisait un super truc et ça peut être top de faire ça. Bon, bah, tu reviendras plus tard dessus, mais il est noté là et tu sais que c'est un item qu'il faut que tu prennes.
Merci beaucoup Rémi pour cette partie hyper intéressant, et je pense qu'il y a plein de trucs concrets que d'autres futurs leaders ou leaders en cours d'amélioration vont pouvoir utiliser. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de cet épisode. Est-ce que t'es prêt ?
Yes !
C'est parti ! Allez, c'est parti pour cette troisième partie, justement, reprise du mot. De quoi tu veux nous parler ?
J'aimerais bien parler d'une partie d'un conseil que je donne souvent à des PM ou à des gens qui sont en reconversion, qui voudraient rejoindre le milieu du product. Et je répète souvent la même chose, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qui, moi, me semble vrai et ce qui m'a aidé. Sur les conseils pour être un meilleur PM, être un bon PM, ou quel soft skill c'est bien d'avoir si tu veux t'épanouir dans ce milieu-là. Moi, j'ai identifié avec les années deux trucs qui m'ont permis de m'éclater et qui m'ont permis d'avoir le job que je peux avoir aujourd'hui, qui est hyper épanouissant. Et ces deux choses, pour moi, c'est la rigueur et la capacité à oser slash essayer des choses. Pour moi, si je devais en résumer que deux, ces deux choses-là m'ont permis aujourd'hui d'évoluer et d'arriver là où je suis aujourd'hui. Tout se résume vraiment grâce à ça.
Trop bien. Si tu veux qu'on prenne le point sur la rigueur, qu'est-ce que tu entends par là exactement ?
Pour moi, la rigueur, c'est important parce que en tant que PO, PM, encore une fois, peu importe, t'es au milieu de beaucoup de choses. T'as beaucoup de gens qui te demandent beaucoup de choses. Tu vas être aussi bien avec les équipes de dev en permanence que avec tous les gens du métier, que avec ton CPO, que avec des designers, que avec des fondateurs qui vont te demander des choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui peuvent être. Et pour moi, t'as besoin d'une rigueur pour ne rien oublier. Et c'est un point important. Et penser à tout, et penser à tout au bon moment, et prioriser de la bonne façon. Et en fait, la deuxième partie qui est prioriser de la bonne façon, pour moi, tu as besoin de cette rigueur-là. Effectivement, tu as besoin de créativité, tu as besoin de plein d'autres choses, d'empathie, de toutes ces choses-là. Mais la rigueur, avant tout, elle va te permettre de pallier si tu es un peu moins bon dans les autres domaines. Si tu es rigoureux, tu vas déjà pouvoir faire moins de bêtises que les autres. Parce que si tu es rigoureux, tu vas lister tout et penser à tout. Et tu vas méthodiquement lister toutes les possibilités que tu as. Et en fait, à partir du moment où tu as déjà listé toutes les possibilités, bah, tu as moins de chances de te planter et de choisir de ne pas choisir la meilleure. Si tu es créatif et que tu trouves une solution, mais que tu n'es pas rigoureux, bah, tu peux penser à une solution, c'est cool, mais en fait, tu n'as pas pensé aux autres, tu n'as pas listé les autres, tu n'as pas écouté les autres autour de toi, et du coup, tu as peut-être oublié des solutions, et il y en avait des mieux. En tant que PM, tu n'es d'ailleurs, pour moi, pas là pour trouver toutes les solutions, tu es là pour qu'on trouve toutes les solutions et de mettre les bonnes personnes dans la salle pour que toutes les solutions soient identifiées et que la meilleure ensuite ressorte, parce qu'à un instant T, c'est la meilleure solution en fonction des objectifs de la boîte, etc. Mais donc, cette rigueur-là, elle est importante pour ces deux parties, qui est vraiment ton organisation, ne rien oublier et obtenir la confiance. Et ça, c'est un point important. Je vois très souvent des PM qui disent « Oui, mais on ne m'écoute pas. Oui, mais les fondateurs ne m'écoutent pas. Oui, mais le marketing ne m'écoute pas. Oui, mais je dis des choses, mais les gens n'écoutent pas, mais on ne fait pas comme je dis, etc. » Et bien, souvent, je trouve, en tout cas, et j'ai vu dans le passé que la rigueur permettait d'obtenir la confiance, parce que quand on dit une chose à quelqu'un et qu'on voit qu'il s'en rappelle, et qu'on voit que ça a été bien au bon moment, et que ça a été listé dans les items, et qu'on sait qu'il n'a pas oublié des choses, et on est pas surpris en tout cas par cette rigueur, mais on constate cette rigueur-là, on fait confiance. Quand on fait confiance, c'est plus facile d'écouter la personne. Après, il peut y avoir des problèmes de pédagogie, il faut peut-être apprendre au PM à être un peu plus pédagogue, à mieux expliquer, à présenter les choses, etc. Mais en tout cas, cette confiance, elle permet justement d'ensuite être plus écouté. Et la deuxième partie.
Alors, j'ai juste une question sur ça. Ouais. Est-ce que tu penses que la rigueur, pour quelqu'un qui n'est pas très rigoureux de base, ça se développe ? Est-ce que tu penses que c'est un muscle ? Ou est-ce qu'en fait, on est naturellement rigoureux et compliqué de devenir quelqu'un de très rigoureux ?
Ça se développe, c'est sûr. Ça se travaille, parce que tu peux être rigoureux et en fait, tu as des outils qui te permettent de l'être encore plus. Notion est absolument incroyable pour ça, mais tu en as plein d'autres. Moi, j'utilise un mélange de plusieurs, du Notion, du Task, de Gmail, tes mails, comment tu gères ton inbox, comment tu gères tout un tas de choses, ton Slack ou ton Teams, peu importe. Ça se travaille, mais tu as quand même une base. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce que je disais, c'est que souvent, quand des gens me demandent « Ah, j'aimerais bien aller dans le product ou quoi ?» Pour moi, la rigueur est quand même un minimum. Mmh. Quelqu'un de pas du tout rigoureux, je suis pas sûr qu'il s'éclate en tant que PO ou PM. Parce qu'il y a un moment où quand tu as trois projets en même temps, tu en as un que tu dois préparer, tu dois aller interviewer, enfin parler avec tes stakeholders, préparer la priorisation du sprint, tu as beaucoup de choses à penser. Si tu n'es pas organisé, tu peux facilement... psychologiquement, ça peut être dur. Tu peux subir beaucoup. Moi, il y a un truc qui... Enfin, en fait, quand tu rentres chez toi le soir, tu as besoin aussi de couper, de penser à autre chose. Si tu n'es pas organisé, pas rigoureux, je pense que tu auras du mal à le faire et tu peux vite souffrir de cette partie-là. Et le but, c'est quand même pas de souffrir de ton boulot, et c'est important. Moi, ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Je l'étais moins au début. Par contre, j'avais une base, je pense, de rigueur en perso, hein, dans ma vie perso, dans ma vie pro, une base de rigueur. Mais je l'ai travaillé, qui fait qu'aujourd'hui, je sais que j'ai tout qui est noté à un endroit, évidemment, mais organisé d'une façon où ça, je le verrai au bon moment, pas trop tard, pas trop tôt, et qui fait que quand je rentre chez moi le soir, j'ai pas besoin de dire « Ah tiens, est-ce que j'ai pensé à tel truc ?» Parce que dans ma vie perso, dans ma vie pro, tout est noté, et en fait, tout ça, c'est, je sais que c'est quelque part, j'ai pas besoin d'y penser. Dès que j'ai un nouveau truc qui rentre, il est noté au bon endroit, dans le bon truc organisé, et ça sort, et hop, c'est bon, je peux retourner à ce que j'étais en train de faire.
Donc la rigueur passe par ça pour toi, c'est-à-dire de matérialiser les pensées, les idées que t'as. Comment, typiquement, t'es dans le métro, t'as une idée qui te vient, je sais pas si tu prends le métro, mais peu importe, t'es dans un contexte où c'est compliqué de sortir son PC.
Ouais.
Tu notes ça sur quoi ?
Alors, on a de la chance, maintenant, c'est qu'on a tout sur nos téléphones. T'as une app pour tout, au pire, t'as un site web mobile, une web app, ou peu importe, mais en général, t'as une app native qui est faite pour ça. Tu as notes, enfin, t'as l'app Notion, l'app Task, c'est les deux sur lesquels je mets le plus de choses. Ça suffit à tout écrire. Et dans le métro, t'as effectivement le cas. D'ailleurs, je trouve que le métro est hyper cool pour ça.
Trop bien.
Parce que ça te fait un espèce de sas de décompression. Mmh. Alors, tu continues de bosser souvent dans le métro, mais tu peux écouter un truc, être un peu ailleurs et faire être entre les deux. Mais du coup, tu revois un peu ta journée, soit le soir, soit le matin, d'une manière assez différente. Mais le matin, t'es là, ah tiens, tu regardes ton journal, il y a tel truc. Hop, et tu notes, ah tiens, faut que je prépare ça, tiens, faut que je fasse ça. Ou le soir, ah putain, c'est vrai, il y avait tel truc. Hop, tu notes. Mais une fois que t'es sorti du métro, tout est noté, tout est quelque part et tu peux... Ok, bah c'est bon, c'est noté, je verrai demain.
Trop bien. Moi, je fais un truc que j'aime beaucoup, que je donne à beaucoup d'entrepreneurs en ce moment, c'est de... Je m'auto-envoie des notes WhatsApp.
Ouais.
Donc, tu peux t'envoyer des messages à toi-même, en fait, sur WhatsApp. Donc, l'astuce, c'est juste de se créer un contact avec son propre numéro hein, et t'envoie un message à Timothée. Tu vois, je l'envoie en vocal et je me mets dans mon agenda tous les jours, une plage, enfin, tous les deux jours, une plage où je dis récupérer message WhatsApp que je transfère sur de la note écrite, tu vois.
Ouais.
Et ça, moi, ça m'a sauvé la vie parce que dès que t'as des pensées que t'oublies, c'est hyper frustrant. Tu dis merde, j'avais un truc trop bien. Voilà. Bon, il y a 15 000 moyens de le faire à nouveau. C'est que de l'outil, tout ça, c'est rien. Mais c'est un moyen rapide, en fait.
C'est très bien.
Sans se poser de questions, de noter des idées, de rien oublier, quoi.
Et encore une fois, c'est ce qu'on a dit au début. Mais pour moi, il faut pas prendre un truc tel quel et essayer de se l'appliquer à soi-même. Ouais. Ça marche pas. C'est comme tu lis ce qu'il y a sur les blogs de Spotify. Bah, le fais pas tel quel. Bah, là, c'est pareil. Moi, j'ai cette méthode-là. Et par mon boulot et par ma façon de bosser, c'est de ça dont j'ai besoin. Parce que j'ai une mémoire, et quand j'écris quelque chose, je m'en rappelle, mais j'ai besoin de l'avoir écrit, alors, ou de le taper sur mon ordinateur ou le téléphone, et donc de le mettre dans la to-do, hop, c'est aussi que ça a été mémorisé, je sais où il est, je me rappelle à quel endroit il est, où est-ce que je l'ai écrit, etc. Toi, t'es aussi sans doute dans un boulot beaucoup plus créatif, et donc la note vocale, elle va te permettre d'exprimer beaucoup plus de choses, du détail, ce que tu vas avoir dans ta tête au moment. Et important, moi, la to-do, en général, c'est 4 mots. Et en fait, mais parce qu'il y a beaucoup moins cette partie-là de créativité au détail, mais qui va être penser à faire ça, penser à faire tel doc, penser à relancer tel truc, penser, tu vois, c'est très court et très rapide, et c'est le meilleur outil que moi j'ai trouvé, mais chacun a sa méthode, et il y en a des tonnes, il y en a qui utilisent les notes, il y en a que du téléphone, il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Top. Il y avait un deuxième point que tu voulais évoquer après la rigueur, tu parlais d'oser tout à l'heure.
Ouais.
C'est quoi concrètement? Qu'est-ce que tu entends par là?
Ça me tient à cœur particulièrement et c'est très récent. Je m'en suis rendu compte plus dans le perso et c'est pas forcément lié au produit, mais je m'en suis rendu compte en discutant avec des gens que malheureusement, encore, on a du mal, je trouve, dans les boîtes à détecter vraiment les talents, les meilleures personnes. Et du coup, les personnes qui montent ne sont pas toujours les meilleures. Les personnes qui ont les bons postes ne sont pas toujours les meilleures. Et à l'inverse, ça c'est le côté négatif, mais le côté qui est un peu plus positif, c'est qu'il y a des gens qui devraient avoir des super postes ou un impact en tout cas beaucoup plus important sur ce qu'ils font et qui ne l'ont pas juste parce qu'ils n'osent pas ou parce qu'ils n'essayent pas. Et moi, je pense que les coups de chance que j'ai eus, je dis souvent le mot chance ou... C'est pas forcément des chances, c'est en tout cas des opportunités qu'on m'a données, que j'ai un peu provoquées. J'ai demandé un truc, j'ai dit tiens, ça j'aime bien, est-ce que je pourrais le faire? On me dit non, mais en fait juste le fait de l'avoir demandé, ce qui fait que 6 mois après, bah, on a pu travailler dessus et finalement je l'ai eu. Alors si je l'avais pas demandé 6 mois avant, je l'aurais peut-être pas eu, pas eu du tout, ou d'une façon différente, ou sous plus longtemps, etc. Et pour moi, il y a un côté important qui est, ok, il faut oser demander, ça c'est une chose, et dans le produit, je me suis rendu compte qu'en fait, ce point-là que j'ai commencé à analyser de manière pas liée dans le produit et plus en perso sur d'autres choses, je l'ai remis dans son contexte dans le produit. Et moi, je pense que ça m'a aussi permis d'être un meilleur product manager parce que j'osais dire ce que je pensais. J'osais dire non, je ne suis pas d'accord quand tu as un fondateur qui te parle de quelque chose ou qui va te dire tiens, c'est comme ça qu'il faut faire, lui dire je pense pas, je suis pas sûr. Moi, je pense plutôt que c'est ça. Et en fait, oser lui dire, bah, y a peut-être une autre solution. Bah, y a peut-être une autre façon de faire. Et non, ça, c'est pas terrible. Et en fait, j'en suis revenu à chaque fois à la même chose, de oser dire, oser proposer, oser critiquer, évidemment de manière constructive. Moi, j'ai Yann, le CEO de Chauffeur Privé, qui était absolument génial. On faisait des one-one au début. Et qui, en fait, c'était même pas des one-one, c'était plutôt sur dire comment il pouvait s'améliorer. Et donc, en gros, pas comment le critiquer, mais c'était, ok, tu me remontes ce qui va pas, et quand tu me remontes ce qui va pas, tu me dis, quel est le problème ? Donne-moi un exemple de quand j'ai fait ce truc-là, et comment je pourrais faire pour être meilleur. Et ça, pour moi, c'est typiquement dans la critique constructive, et on n'était plus que là-dedans. Et je trouve ça assez smart comme modèle. Et du coup, je lui faisais que ça. Mais il faut oser dire ces choses-là. Et il y a plein de gens, tu le vois dans les entreprises, quand t'es, si t'as la machine à café, ou si t'es en soirée, ou dans les trucs comme ça, plein de gens qui sont pas contents de plein de choses, mais qui le disent pas. Mmh. Et en fait, si t'es la personne qui va le dire, de la bonne façon, évidemment, mais qui va le dire, souvent, tu vas être identifié aussi par les gens à qui tu vas le dire, comme, ok, bah, il a osé me le dire, et lui, je vais pouvoir compter sur lui pour me dire quand ça va pas, pour m'aider quand ça va pas, pour me donner des idées, pour m'apporter des choses. Et tu vas plus être justement dans le passif, mais t'es vraiment dans l'actif. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Dans le produit d'autant plus, parce que t'as besoin d'oser dire des choses et d'essayer des choses. Et en fait, j'ai rajouté le « essayer » un peu plus tard, qui est très vrai, c'est qu'il n'y a qu'en essayant qu'on fait les erreurs et qu'on peut ensuite réussir. Si tu n'essayes pas, tu ne pourras jamais réussir.
Plus tu fais d'erreurs, plus tu muscles à nouveau ton sens, exactement, ton intuition.
Et si tu ne fais pas d'erreurs, tant mieux. Des fois, tu essaies des trucs, ça marche du premier coup. Tant mieux. Mais je veux dire, si tu n'essayes pas, ce qui est sûr, c'est que tu ne réussiras jamais. Jamais, jamais, jamais. Si tu n'essayes pas, tu ne réussiras pas. Ça ne tombe pas du ciel. C'est très rare. Ça arrive des fois. Alors, tiens, tu veux ça. Ok, mais ce n'est pas la norme. Essaye, ça marche tant mieux. Ça ne marche pas, tant mieux. Au moins, tu as appris et tu feras un peu moins mal la fois d'après.
Trop cool. Bah écoute, super note positive et merci pour ces deux conseils. Je suis complètement d'accord et d'ailleurs je rajouterais juste un truc sur le deuxième point. Tu sais, moi souvent je me suis un peu comparé quand j'ai commencé à entreprendre en me disant mais tu vois, bah tu parles de Zenly, je sais plus si c'était leur première boîte, mais tu te dis les gars sont super jeunes, ils montent une boîte, ça marche direct et tout. Mais en fait, ce qu'on voit pas derrière, c'est quand même que justement il y a eu beaucoup d'essais qui ont foiré quoi, mais énormément. Et donc on voit le truc comme c'est le succès qui est venu, c'est leur premier succès très jeune, etc. Mais on voit pas les milliers de répétitions de conneries qu'ils ont pu faire. Ouais. Et je pense que c'est pareil dans le job de PM en fait, tu vois. Si tu prends pas ces opportunités à un moment et que tu préfères parce que t'as un petit peu peur, parce que c'est mieux vu dans la société de rien dire en fait, je pense qu'effectivement tu t'exploites pas complètement quoi, ton potentiel quoi.
Et maintenant c'est peut-être à l'extrême, c'est-à-dire que maintenant c'est à outrance, mais c'est beaucoup plus toléré dans notre société d'échouer et de raconter. Et donc maintenant tu vois fleurir de partout. J'ai échoué, machin, et bon, c'est peut-être un peu trop.
C'est une personne à branding,
mais bon, c'est sur cette partie-là, c'est un peu moins bien, mais en tout cas, ça permet de déculpabiliser l'échec, etc. Et tant mieux. Je préfère que ça soit dans ce sens-là et qu'on arrête de culpabiliser. T'as raté, c'est pas grave. Moi, j'ai monté une boîte, ça n'a pas marché, vraiment. On a essayé plusieurs trucs, il n'y en a aucune. Par contre, ça a été cool, on s'est marré, on a lancé des trucs, on a quand même, tu vois, on a eu plein de succès au long de la route. On a réussi à construire une équipe, on a réussi à lancer des produits qui ont eu des centaines de milliers, enfin plus de 100 000 utilisateurs. C'est génial. In fine, ça s'est échoué. La boîte s'est plantée, ça va marcher. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai appris plein de trucs. On a fait attention à ce que les employés retrouvent quelque chose. On s'est concentré sur ce qui a été important pour nous ensuite, mais voilà, c'est au final, c'était pas grave.
Trop cool. Merci beaucoup, Rémi. Je te propose qu'on passe à la toute dernière partie du podcast, yes, qui s'appelle les questions flash. Principe est simple. Je vais te poser 4 questions auxquelles il faudra que tu répondes le plus rapidement possible. Est-ce que t'es prêt?
Yes.
Quel est ton pire échec en tant que product manager?
Il y a 10 ans, c'est au tout début. Première expérience où j'étais le seul PM sur la partie musique. On a soumis une app et les gens ne pouvaient plus. La fonctionnalité principale de l'app ne marchait plus. Du coup, on a dû absolument tout corriger en urgence. Mais il ne pouvait plus rien faire sur l'application. Donc là, c'est catastrophique.
Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien?
Moi, là où j'apprends le mieux, c'est en discutant avec des gens qui font le même boulot, ou en tout cas qui sont passés par les mêmes expériences dans tout, en perso et en pro. J'ai des exemples là-dessus. C'est pour moi, c'est par là que je passe.
Une ou deux personnes avec qui t'as causé, par exemple, qui t'ont marqué, par exemple?
Une des premières, c'était Rémi Guyot de Blablacar, parce que il travaillait dans un... Moi, j'étais chez Chauffeur Privé à ce moment-là, et j'avais besoin, on me demandait, tiens, fais une roadmap pour le COMEX, etc. Je me suis dit, ok, il faut que je trouve des gens qui l'ont déjà fait, et dans des milieux peut-être pas trop éloignés, donc Blablacar, ça restait assez proche, et en même temps, on n'était pas concurrents purs, et on pouvait parler sans problème.
Trop bien. Quel conseil tu donnerais à un product manager en début de carrière?
Je reviens à ce que j'ai dit avant. Oser, il faut oser, et rigueur.
Et pour finir, quel CPO ou VP, comme tu veux d'ailleurs, devrais-je inviter sur Clé de Voûte?
Axel, c'est pas mal. Je pense que Axel Guidicelli de Ulysse, il est fondateur, mais il gère aussi tout le produit là-bas. À mon avis, il y a des tonnes de trucs cool à te raconter là-dessus.
Trop bien, invité pas très connu sur l'écosystème produit, je pense, mais ouais. Pour le coup, il a été producteur.
Mais il mérite d'être connu, il est vraiment très très fort.
Trop bien. Merci beaucoup, Rémi, de ton passage, ta venue sur le podcast. C'était vraiment cool. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. Il y a plein de choses qu'on va ressortir là et qui vont pouvoir aider des PM. Donc, ravi de pouvoir échanger à nouveau sur d'autres challenges. Je suis sûr que tu en as plein à raconter. Et puis, on se reparle vite, j'espère.
Trop bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très cool.
Salut, Rémi. Bye.
Salut.
Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu.
I have everything here.
Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
I'm so happy.